Marie-Françoise Maillard-Toraillet
et Marie-France Dumas-Roche sont très heureuses de vous retrouver sur Radio Grand Ciel pour leur émission
La cuisine des Maries.
Bonjour à tous, sans Marie-Françoise, je vous retrouve quand même aujourd'hui avec Pierre Écart à la technique. Pour une émission un petit peu différente, je voudrais vous faire part d'un article que j'ai vu il y a déjà quelques années d'ailleurs. Bertrand Dekkers avait signé dans Jour de France l'hebdomadaire Ressuscité qui avait été inventé par Marcel Dassault, un article qui m'avait véritablement passionné. Il s'agissait de Star et Gotha, cuvée royale. Prince, acteur ou producteur de cinéma, il partage la même passion pour la vigne, une activité à laquelle il s'adonne avec enthousiasme et professionnalisme. C'était le plus connu des princes vignerons, Henrik de Danemark, l'époux français de la reine Margaret, était né à Talence, en Gironde, à 200 mètres d'un vignoble ô combien réputé, le château Pape Clément. Un signe sans doute, puisqu'après avoir passé les 5 premières années de sa vie en Indochine, c'est à Cahors, dans le Lot, capitale historique du Quercy, un pays de pierres et d'eau, de collines et de vignes, que se déroule son enfance. Henrik de la Borde de Montpezat grandit en observant les vendanges et les levées de soleil. Déjà le sang de la vigne, son alchimie, ses mystères coulent dans ses veines. En 1967, devenu l'époux de la future reine de Danemark, le nouveau prince n'abandonne pas ses premières amours, bien au contraire. Cette passion va devenir un véritable passe-temps, mieux, un véritable métier. Après avoir acquis en 1974 le château de Queix et son domaine, un ancien fortin édifié au XVe siècle, entouré d'un vignoble de 21 hectares exposé plein sud, Son Altesse Royale entame une patiente restauration de la demeure et de ses prestigieux coteaux. Très vite, aidé par une équipe d'œnologues avertis, le prince vigneron propose une large gamme de vins, et pas uniquement des crus d'exception. Avec sa belle robe pourpre, ses arômes de fruits rouges, ses notes épicées, le château de Queix est présenté comme un vin charpenté et fruité. Peut-être d'ailleurs faut-il dire le château de Queix, mais bon, moi je dis le X qui me plaît beaucoup. Il est complété par le rosé du prince de Danemark et la cigarale, un vin blanc que le prince a baptisé du nom du belvédère qui domine ses terres. Les caves du domaine renferment aussi des cuvées plus élaborées telles que l'Altesse, un vin blanc élevé 9 mois en barrique, ou la cuvée Majesté, un vin rouge vinifié dans un foudre de bois. Le dernier né des crus d'exception de Queix est la Royale, un rouge puissant à la robe noire ébène, aux notes épicées et vanillées. En avril, par un communiqué officiel, cette année-là, le palais annonçait qu'en concertation avec sa famille, le prince avait décidé de confier la gestion des récoltes et de ses vignes à la société française Vinovalie. Faut-il y voir un désir de suspendre ses activités ? Il n'est pas interdit de le penser. Néanmoins, comme il le confiait récemment à un magazine, l'amour d'Henrik pour ses vignes et la France restera à jamais au plus profond de son cœur. Il m'est impossible, disait-il, d'imaginer une existence sans Cahors, sans la vigne, sans le vin, car c'est l'essence même de la vie. D'autres personnalités du Gotha se laissent séduire par la perspective de Royal Cuvée. Le prince Félix de Luxembourg, deuxième fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Theresa, c'est lui aussi depuis son mariage avec Claire la Demachère, célébré le 21 septembre 2013 dans le Var, converti en prince vigneron. Le jeune homme est à la tête du château Les Crosts, propriété de son beau-père, l'industriel allemand Helmut Lademacher. Le domaine est du XVIIe siècle, caché dans les collines de Provence et il est posé au cœur de 55 hectares de vignes. L'apprentissage du prince, on s'en doute, est foncièrement différent de celui d'un exploitant viticole. Avant de délaisser les ors de la cour de Luxembourg pour le soleil du midi, Félix a donc suivi plusieurs mois de formation accélérée au cours de laquelle lui ont été inculqués tous les secrets de l'œnologie. La production du château Les Crosts fait la part belle aux trois couleurs, des rouges tendres, aromatiques et très goûteux. Des rosés aussi pâles que frais et des blancs à la robe dorée traversée de reflets vert clair. Véritable performance dans une région où cette couleur ne représente en moyenne que 5% des vins. Le domaine commercialise également deux méthodes champenoises. L'une rosée, baptisée Claire comme son épouse. L'autre blanche, appelée Gabriella, second prénom de la fille du couple. Félix a-t-il suivi l'exemple du prince consort de Danemark ou celui de son petit cousin, le prince Robert de Luxembourg, fils du prince Charles et de la princesse Joanne? En effet, depuis ses 18 ans, le petit-fils de feu, la grande duchesse Charlotte, est impliqué dans la gestion du château Aubrion, un domaine réputé du Bordelais, produisant un vin exceptionnel, acquis en 1935 par Clarence Dillon, le grand-père de la princesse Joanne. Rejoignant à temps plein la direction de l'entreprise en 1997, le prince Robert en est devenu directeur général en 2002, fonction occupée jusqu'alors par son beau-père, le duc de Mouchy. Trois années plus tard, à son initiative, sont nés Clarence Dillon Wines, une maison de négoce, ainsi que Clarendelle, la première marque super premium des vins de Bordeaux. En parallèle, le prince Robert a également fait entreprendre des travaux de rénovation au château La Mission Aubrion, propriété voisine, acquise par la princesse Joanne en 1983, faisant ainsi tomber dans le giron familial les crus associés Château La Ville Aubrion et Château La Tour Aubrion. Mais princes et princesses ne sont pas les seuls à répondre aux appels de Dionysos. La planète People est elle aussi très investie dans le secteur vinicole. Évidemment, on pense immédiatement à Brad Pitt et Angelina Jolie lorsqu'ils étaient encore mariés. À chaque vendange, leur château Miraval, une bastide provençale située à Corins, au cœur de la Provence, acquise en 2008, entourée de pinèdes, de champs d'agrumes, d'oliviers, de chênes truffiers, et de 30 hectares de vignobles biologiques, produit jusqu'à 100 000 bouteilles. Composé d'un rosé, de deux blancs, d'un rouge et d'un super rouge, les vins du couple star ne cessaient de faire des émules à travers le monde. Pour garantir le succès de leur exploitation, Brad et Angelina allaient jusqu'à s'investir personnellement, contrôlant par exemple l'assemblage des différentes cuvées. Et leur choix semblait judicieux, puisque leur Côte de Provence Rosé 2012, un élixir aux notes de fleurs blanches et de fruits rouges, à la trame acide extrêmement rafraîchissante, est, à ce jour, le seul rosé classé parmi les 100 meilleurs vins du monde par le Wine Spectator, la Bible du vin. Le réalisateur Francis Ford Coppola coiffe lui aussi régulièrement la casquette d'exploitant viticole, situé en Californie cette fois, à côté de Rubicon Winery, sa propriété au cœur de la Napa Valley. Ses vignobles bénéficient d'installations flambant neuves ainsi que d'un immense parc de loisirs afin de permettre aux visiteurs d'y passer une journée entière et de se détendre en famille. En 2006, le cinéaste avait créé la Francis Ford Coppola Winery, une firme lui permettant de superviser ses nombreuses activités de négoce. Elle regroupe actuellement plus de 30 vins répartis dans une dizaine de gammes, dont les fameux Diamond Collection. Et un vin blanc pétillant, mélange de pinot blanc, sauvignon blanc et muscat canelli, qu'il a baptisé Sophia, le prénom de sa fille. Autre star, autre terroir. En 1999, c'est un domaine toscan, une bâtisse du XVIIe siècle comprenant un moulin, un verger et d'immenses vignobles que se sont entichés Sting et son épouse Trudy Styler. Quelques années plus tard, entièrement restaurée, la propriété propose une gigantesque boutique commercialisant tout ce qui est produit sur le domaine. Miel, huile d'olive, légumes, lavande et une gamme de 4 grands crus. Les fans de la star peuvent également passer une journée à vendanger ses vignes, à condition tout de même de débourser 262 euros. Le profit serait-il le seul motif des célébrités? Mais pas seulement. Ainsi, Bien plus que l'appât du gain, c'est sans doute son histoire familiale. Un père et un grand-père vigneron qui a poussé Jean-Louis Trintignant à se lancer dans l'expérience viticole. En 1996, il crée le domaine rouge Garance, une parcelle de 5 hectares dans les côtes du Rhône. Il produit aujourd'hui 20 000 bouteilles de vin bio en appellation d'origine contrôlée. Jouer les vignerons n'est pas l'apanage des hommes. Pour preuve, Carole Bouquet, qui maîtrise également tous les mystères de la vigne. L'actrice produit le Sangue d'Oro, un Moscato Passito de Pantelleria, à la couleur du soleil et au parfum de l'été, cultivé sur l'île éponyme, au large de la Sicile, où elle possède une merveilleuse maison perdue au cœur de 13 hectares de vignes. D'emblée, l'actrice a tenu à s'impliquer personnellement dans la production et a mis en bouteille la première récolte. Aujourd'hui encore, elle n'hésite pas à prendre part au long travail de vinification. « Le Sangue d'Oro me fait rêver », confie-t-elle. « Quand je plonge le nez dans mon verre, j'y retrouve toutes les odeurs, toutes les couleurs de l'île en été. » Est-ce Gérard Depardieu, l'homme qu'elle a tant aimé et pour lequel elle avouait récemment garder toujours une immense tendresse qui lui aurait transmis le virus de la vigne ? L'histoire ne nous le dit pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que depuis toujours, les plus petits secrets des grands crus n'ont aucun mystère pour lui. En 1989, il a fait l'acquisition du château de Tignier, à mi-chemin entre Angers et Saumur, au cœur de l'Anjou. L'imposante demeure, entourée de 100 hectares de vignes, résiste aux assauts du temps. Associé avec son ami et maître de chai, Dominique Polo, très vite en bon gestionnaire, l'acteur quadruple la superficie du domaine. En 2005, produisant 5 types de vins rouges, 2 de rosé et 6 de blanc, l'exploitation de Gérard Depardieu atteignait les 400 000 bouteilles par an. Un autre grand nom du cinéma français, Pierre Richard, se partage, lui aussi, entre les plateaux de cinéma et les vignes. En 1986, il découvre le domaine de l'Évêque, 50 hectares de garrigues et de vignes en bordure de la Méditerranée, blottis entre les roches et les étangs. Immédiatement séduit par le site authentique et sauvage, il décide d'y entreprendre la restauration du vignoble de 20 hectares pour y créer son propre vin. Un château, Bel Évêque, d'appellation d'origine contrôlée, décliné en rouge et en rosé. Chaque année, l'acteur élabore lui-même les assemblages et oriente ses choix selon les propriétés particulières du millésime. Dans cette liste non exhaustive, n'oublions pas Francis Cabrel. Dès qu'il en a l'occasion, sur un plateau de télévision ou à la radio, le chanteur ne manque jamais d'évoquer son activité de vigneron. L'autre passion de sa vie. Ces vignes, plantées en 1998 avec son ami œnologue et son frère Philippe, sont situées à Astafort, dans le Lot-et-Garonne. Mon studio est à l'étage et jouit d'une vue imprenable sur le vignoble. Juste en dessous se trouve le chai, les machines qui vont transformer le raisin en vin. Je crois en cette magie, déclarait-il lors d'une interview donnée à l'occasion de la sortie de son dernier album. Aujourd'hui, les 10 hectares du domaine du Boiron affichent une production annuelle de 40 000 bouteilles et produisent 3 cuvées biologiques. Dois-je vous le dire ? Oui, je vais vous le dire. Tout cela est à consommer avec modération. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la cuisine des Maris sur les ondes de Radio Ranciel. Au revoir.